enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors nous allons continuer notre cours sur dispensation. Et je vais donc avancer dans ce sujet. Ce sujet, c'est un sujet important.
Ce
n'est pas un sujet dont on peut réellement se nourrir tel quel. Dans le sens où ça ne nourrit pas notre foi pour aujourd'hui, tant que nous sommes sur cette terre. De la foi qui reçoit, je m'entends bien sur l'aspect de la foi ici. Mais il est clair que cela va nous faire comprendre un certain nombre de réalités dans lesquelles nous avons besoin d'entrer. Parce que Dieu veut qu'on apprenne les choses sur sa parole.
Vous
savez, Dieu est un Dieu prophétique.
C'est-à-dire
que Dieu voit toujours beaucoup plus loin.
Dieu
voit toujours la fin alors que nous voyons le commencement. Dieu voit l'infini alors que nous voyons la seconde qui passe.
Vous
voyez, Dieu est infini. Et il est très important de comprendre globalement ce que la parole de Dieu nous dit sur l'histoire de l'univers. Parce que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas là par hasard. Nous
ne
sommes pas nés par hasard. Le jour où tu es entré dans ton salut, tu es entré dans ta prédestination, sur ce que Dieu veut que tu fasses. Dans ta destinée éternelle. Et il faut comprendre toujours en globalité. Quand on a du recul sur ce que Dieu fait, c'est beaucoup plus facile plutôt que d'être plongé dans notre quotidien qui très souvent nous trompe. Parce que ton quotidien peut t'environner, certains problèmes peuvent t'environner et tu oublies juste à côté de toi qu'il y a des gens qui se meurent dans leur péché et qui iront pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Donc la Bible est claire, Dieu est un Dieu prophétique. Ce qu'il a déclaré d'avance, il l'accomplira. Et nous devons, nous l'église de Dieu, savoir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est sûr. Les temps où nous sommes, il faut savoir les discerner. Et ce qui se passera, ce qui est, ce qui était, ce qui sera, rappelez-vous ça. C'est très important de garder une vision d'ensemble. Alors il y a une doctrine qu'on appelle communément eschatologie, qui veut dire étude de la fin des temps. Et c'est en fait toutes les périodes prophétiques que Dieu a fixées qui se produiront selon sa souveraineté. Ce sont ces périodes, ça s'appelle des dispensations, et elles sont parfaitement déterminées et contrôlées par Dieu lui-même. Alors je vous avais montré qu'il y a des choses que nous pouvons recevoir sur cette terre par notre foi, mais il y a aussi des choses qui font partie de notre espérance bienheureuse. Notre espérance bienheureuse, c'est là où Dieu va t'amener dans l'éternité. Nous avons commencé notre parcours le jour où nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Et ce parcours, nous en sommes conscients pour l'instant sur ce qui se passe sur la terre. Mais ce parcours que nous faisons sur la terre est extrêmement faible, tout petit, dirions-nous, par rapport à l'éternité que nous allons passer avec le Seigneur. Mais il est important de savoir qu'il va y avoir des choses par lesquelles nous allons passer ou que nous allons observer. La fin étant que le Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre, puisse régner avec vous et moi sur une terre qui sera en parfaite harmonie avec lui
et
qui aura été recréée sur sa surface, où le monde spirituel et le monde matériel seront entièrement en harmonie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors nous avions vu qu'il y avait 7 dispensations, je ne vais pas revenir dessus. L'innocence, Adam et Ève dans le jardin, la conscience qui va durer un peu plus de 16 siècles et qui va commencer avec Adam et Ève déchus jusqu'au déluge, ensuite le gouvernement humain qui commence avec l'alliance que Dieu a faite avec Noé jusqu'à la tour de Babel. Je vous ai expliqué tout ça. Et ces 3 dispensations couvrent 2000 ans. Ensuite, nous avons la dispensation de la promesse qui commence avec Abraham. Dieu choisit un homme par lequel il va faire naître 2 grandes nations. Une nation terrestre qui sera le peuple d'Israël, plus certaines erreurs que Abraham va faire, il va faire naître d'autres nations. Mais aussi la nation céleste. Et ça, c'est l'église de Dieu. Cette dispensation va durer un peu plus de 400 ans. Et ensuite, il va y avoir la loi. Dieu se choisit un peuple, le peuple d'Israël, pour répandre sa connaissance, garder sa connaissance. Et Israël avait la connaissance de Dieu selon leur alliance, mais ils connaissaient le vrai Dieu. Et ils avaient une loi écrite. C'est la première fois où un peuple a possédé une loi, la loi de Dieu, environ 1500 ans avant Jésus. Et c'est par Israël que le Messie promis à Adam et Ève qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait du sein de la femme et qui écraserait l'autorité de Satan. C'est au travers de ce peuple que la promesse aura lieu.
Et
nous savons, c'est au travers de Christ. 6e dispensation, c'est l'Église. C'est là où nous sommes. Elle commence à la résurrection de Jésus et elle finira à l'enlèvement de l'Église. 7e dispensation, ça sera le millénium. Et entre la 6e et la 7e dispensation, il y aura une période très courte sur la terre qu'on va étudier d'ailleurs, dont on connaît la durée exacte. Ça sera 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il y aura la tribulation. Une période où Dieu va venir juger les êtres humains. L'Église sera enlevée. Et juste à la fin de cette tribulation, une nouvelle dispensation va commencer. Jésus va revenir pour la 2e fois. Et il va établir son règne sur la terre pendant 1000 ans à Jérusalem. Et Israël sera la première nation sur la terre, la nation la plus prospère du monde. Et c'est par Israël que toutes les autres nations seront bénies à ce moment-là. Nous étudierons aussi cette période. Alors souvent, donc, Dieu a initié les dispensations, mais l'homme y a souvent mis un terme par sa rébellion, entre autres Adam et Ève qui se rebellent. rebelles et qui vont du côté de Satan. Et Dieu, au travers des dispensations, va toujours s'arranger pour que l'homme ait un moyen de s'approcher de lui, plus ou moins d'une façon proche. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est ce que nous avons commencé à étudier, sous la dispensation de la grâce. Et Dieu a fait une alliance avec nous en Christ. Alors on va revoir un texte pour commencer qu'on a vu la dernière fois déjà. C'est dans Éphésiens chapitre 3. Et c'est là où Paul va nous montrer un certain nombre de choses à propos de la dispensation de la grâce. Parce que la dispensation de la grâce, c'est là où nous sommes. C'est la dispensation de l'Église. C'est le temps de l'Église. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu a révélées dans l'Ancien Testament.
Et
des choses complémentaires qu'il va révéler dans le Nouveau Testament. Nous allons voir ce que Dieu a amené aux Juifs. Comment ils voyaient les choses. Et comment nous, l'Église de Dieu, nous avons une meilleure compréhension des événements de la fin des temps. Paul nous dit dans Éphésiens 3 à partir du verset 1: à cause de cela, moi Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu dont je vous ai fait part et qui m'a été accordée. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant ces lignes, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont en effet un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont je suis devenu serviteur, dont le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère cachée de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses.
Nicyo gituma jewe Pawulo ku murongo wa mbere imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ububwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nkuko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpwemu yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa basangiye natwe umubiri umwe basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza nacitse umukozi wabwo nkuko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri ubwo nahawe nkuko ubushobozi bwayo bukora je wuri mu nyuma y'abera bose nahera ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera.
Donc ici, il y a des mots qui sont importants. D'abord, Paul parle de la dispensation de la grâce.
Et
il dit que cette dispensation, ce temps, cette saison, je vous le rappelle, n'avait pas été révélée avant. Mais elle est révélée dans le temps présent. Là où il écrit justement cet épître, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, et il parle d'un mystère. Et il parle d'une révélation. Donc il y a trois mots qui sont très importants ici dans ce passage. C'est l'aspect, bien sûr, dispensation, mystère et révélation. Quand on regarde ce passage, Paul nous dit clairement qu'il y avait un mystère. Quelque chose que Dieu connaissait. Je vous rappelle que c'est la définition du mystère. Quelque chose que Dieu connaissait. Mais qu'il avait caché pour l'instant.
Voilà.
Et d'un seul coup, il révèle ces choses. Rappelez-vous que le mot révélation, d'ailleurs, apocalypse vient d'un mot grec qui veut dire simplement révélation, qui veut dire enlever le voile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe, mais il y a un tissu, un voile qui est dessus. Donc on ne peut pas pas voir ce qu'il y a en dessous. Et d'un seul coup, Dieu en fait enlever le voile à son initiative. Et d'un seul coup, ça devient une révélation. Voilà ce que c'est qu'une révélation. C'est le fait d'enlever le voile sur quelque chose qui existe, qui est là. Quand Jésus s'est révélé à vous, Jésus était là de toute éternité. Il avait donné sa vie pour vous. Dans son cœur, vous étiez déjà sauvés. Mais c'est devenu une réalité. Le jour où ça vous a été révélé parce que vous avez ouvert votre cœur. C'est la même chose dans chaque dimension dans laquelle nous progressons dans le Seigneur. Donc Dieu a révélé ce mystère, cette connaissance. Et Paul nous dit ces choses que je vous ai dit un peu plus haut, c'est-à-dire en peu de mots. Quand on fait un peu un résumé de ce que Paul nous a dit un peu plus haut dans Éphésiens, ni plus ni moins, c'est que la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est qu'il y a un pardon en Christ.
Il
y a une habitation de Dieu en esprit. Que l'église, c'est le corps de Christ. L'épouse de
Christ.
Ensuite, quand on regarde la doctrine en général que Paul va écrire dans les Écritures, on voit qu'il y a une révélation des dons du Saint-Esprit pour tous les croyants, l'enlèvement de l'église, et nous allons découvrir aussi qu'il y a un mystère qui nous est révélé à nous, c'était l'aveuglement d'Israël. Nous avons bien compris que la dispensation de la grâce, c'est ce qui inclut tout ce qui va faire part au sacrifice de Christ. N'importe quel homme sur cette terre peut avoir son pardon, le pardon de ses péchés, par la foi, non pas par les œuvres. Personne ne peut travailler pour son salut, mais simplement il peut être pardonné. N'importe quel homme peut être pardonné et recevoir le Seigneur si cette personne se repent. Alors Israël ne voyait pas un certain nombre de choses. C'est pour ça que quand on étudie les prophéties, il faut être très prudent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent n'importe quel texte et commence à lui faire dire tout et n'importe quoi. C'est sûr que si on prend un texte de l'Ancien Testament, on essaye de l'appliquer n'importe comment,
eh
bien on peut lui faire dire beaucoup de choses. Et Israël avait un certain nombre de prophéties et nous en étudierons un certain nombre. Israël voyait clairement qu'il allait y avoir un Messie qui allait venir, que le Messie allait mourir, c'était clair. Nous allons voir tout à l'heure avec un peu plus de précision que ce Messie allait ressusciter. Et puis tout de suite, ce qu'Israël voyait, c'est qu'il allait y avoir un temps particulier de tribulation très fort sur la terre, puis que ce Messie allait régner 1000 ans sur la terre et qui serait la première nation du monde. Israël deviendrait numéro 1, la plus grande puissance mondiale. Voilà ce qu'Israël voyait. Donc Israël voyait le Messie. Il va naître au sein du peuple d'Israël. Il va souffrir. Il va ressusciter. Puis d'un seul coup, tant de tribulations très fort. Israël extrêmement menacé. Ce Messie vient les délivrer. Puis il y a le millénium. Et ils voyaient nouveaux cieux, nouvelle terre. C'était en gros ce qu'Israël voyait. Et entre le moment où le Messie allait ressusciter et le temps où il allait y avoir une tribulation sur la terre, c'est-à-dire des temps extrêmement mauvais sur la terre, Israël ne savait pas qu'il allait y avoir un temps. Il ne voyait pas ces choses. Dans les prophéties que vous lirez dans l'Ancien Testament qui prédisent, je vous rappelle que la prophétie de l'Ancien Testament prédit, c'est-à-dire dit à l'avance.
C'est ça,
dans le Nouveau Testament, dans le corps de Christ, Dieu a donné un don prophétique,
et
principalement c'est pour encourager pour consoler, pour exhorter. Donc tout ça c'est clair pour construire le corps de
Christ.
Certaines prophéties que Dieu donne dans le corps de Christ
vont
prédire des choses, mais dans l'Ancien Testament, comme les prophéties sortaient que par le ministère de prophètes, et elles ont été écrites, ce sont des prophéties qui prédisaient quelque chose, qui disaient des choses à l'avance. Et dans les prédictions des prophètes, nous allons étudier entre autres le livre de Daniel, nous verrons aussi Zacharie entre autres, nous ferons quelques petits sauts à droite à gauche dans différents prophètes aussi. Israël ne voyait pas le temps de l'Église. Donc quand vous lisez une prophétie de l'Ancien Testament qui va parler de la fin des temps, et nous allons en étudier un certain nombre, vous verrez que Israël ne voyait jamais l'Église, parce que l'Église ne les concernait pas. Israël ne connaissait pas ce mystère sur le temps de l'Église, cette révélation du temps de l'Église. Quand il est parlé qu'ils auront un cœur nouveau, un esprit nouveau, que leurs péchés seront pardonnés, ça ne concerne pas le temps de l'Église. Ce sont des prophéties pour eux qui vont concerner un temps particulier dans la tribulation, où Israël va se réveiller d'une façon très spéciale. Donc ce mystère de l'Église, ça nous a été révélé à nous. Ça n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Pour eux, ils ne voyaient rien dans cela. Donc, quand on parle d'enlèvement de l'Église, Israël ne le voyait pas. Il
n'y
a aucune prophétie sur l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament. Par contre, il est parlé du Messie qui va revenir. Oui. Et nous verrons qu'effectivement, il y a deux retours de Christ. Mais on va y aller doucement parce que c'est, je sais que pour certains d'entre vous, c'est, ça va être un peu compliqué, en tout cas si on va un peu trop vite. Donc je vais vous expliquer certaines choses et on va y aller pas après pas, de telle façon que vous puissiez vraiment comprendre ce que Dieu dit prophétiquement dans sa parole. C'est un sujet qui est important. Alors on va voir ce qui ne faisait pas partie du mystère révélé pendant le temps de l'Église, la dispensation de l'Église. C'est-à-dire que je vais vous montrer un certain nombre de passages qui vont nous amener à comprendre ce qu'Israël voyait dans l'Ancien Testament pour les événements futurs. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qui leur avait été révélé? La mort du Messie. On a deux passages particulièrement frappants. Ésaïe 53. Ésaïe va recevoir cette révélation absolument fabuleuse. Et on va en lire certains passages. Et ça, c'était quelque chose que donc Israël avait vu, prophétiquement parlant. Le Messie qui allait souffrir, qui allait mourir, c'était clair. Il est dit donc dans Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants. Donc ça, c'est bien une prophétie sur la mort. À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, ou c'est ce qui pouvait, ce que Dieu pouvait agréer de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Donc on voit ici clairement que c'est une prophétie qui parle de la mort du Messie souffrant.
Aha, usomye iki gice cyose basomye kuva ku 3 gushika ku 10, urabona ko bavuga Messie ababazwa kandi apfa.
C'est une des prophéties les plus frappantes de l'Ancien Testament.
No buvugishwa bukomeye cyane buvuga bwo bisazanye
cyera. Sur ce que le Messie va subir comme souffrance. Au psaume 22, nous avons aussi quelque chose d'assez étonnant qui va être prophétisé donc par David. Des paroles que nous avons d'ailleurs étudiées. Et là, sur la, alors que Jésus était sur la croix, verset 2, il est dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Regardez au verset 17 maintenant. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Certains commandent ça comme étant les esprits démoniaques. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et le compte de tous mes os est bon. Eux, ils observent et ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'était quelque chose d'absolument étonnant. Le psaume 22 va s'accomplir. C'était un psaume messianique. C'est-à-dire quelque chose qui allait prédire la mort du Messie. Mains et pieds percés. La crucifixion n'était pas un moyen de mettre à mort les gens. Ensuite, regardons psaume 16. Psaume 16, ça va être une prophétie sur la résurrection du Messie. Versets 8 à 11. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Ici, c'est un psaume qui nous montre quoi? Qui nous montre la résurrection de
Christ.
Et ces paroles sont citées deux fois d'ailleurs dans Acte 2 et Acte 13. Vous avez les parallèles dans vos Bibles. Et ça parle, on dit bien que c'est la résurrection du Christ qui avait été prédite, etc., etc., etc. Ensuite, psaume 110, verset 1, nous montre Jésus élevé, le Messie élevé. On est toujours dans l'Ancien Testament. Psaume 110, et vous avez des parallèles. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous étudiez votre Bible. Vous avez des petits parallèles, c'est-à-dire des références correspondantes à ces versets. Quand par exemple un verset est cité dans le Nouveau Testament ou ailleurs dans l'Ancien Testament, vous avez ce qu'on appelle un parallèle dans votre Bible, une référence qui vous montre où est-ce que ce verset est cité, où est-ce que la même idée se retrouve. Oracle ou déclaration solennelle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette parole est citée trois fois dans les évangiles et une fois dans les actes et une fois dans l'épître aux Hébreux. Cette parole était prophétique. Elle prédisait le fait que Jésus allait s'asseoir à la droite du Père. Jésus glorifié, je vous le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'Israël voyait d'autre? Bon, la naissance du Messie par une vierge, ça on le sait aussi. Dans Isaïe, j'aurais pu commencer par ça. C'est Ésaïe 7, verset 14.
Yesaya andwi umurongo wa 14.
Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous.
Baravuga ngo nico gitumye uhoraho ubwiwe ari ariwe agira abihere kimenyamenya raba inkomi zosaminda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Emmanuel.
Donc Israël savait ces choses.
Israël ibi bintu byose yari bizi.
C'était en fait des jalons.
Ben majambo yari nk'intambwe zihari
zishizweho. Normalement, qui leur donnait de pouvoir reconnaître que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, c'était bien celui qu'ils attendaient. Et il y a plein de prédictions sur le Seigneur, sur le moment où Jésus va venir sur cette terre, sur le Fils qui s'incarne, qui marche sur cette terre.
Et
il y a plein de prédictions qui vont, donc des prophéties qui vont s'accomplir. Vous lisez le début du livre de Matthieu et vous verrez qu'il y a souvent, Matthieu fait souvent référence à l'Ancien Testament. Donc tout ça, c'était des choses qu'Israël connaissait et savait. Maintenant, une autre chose qu'Israël savait, c'était la tribulation.
Et
nous l'étudierons en détail. Mais là, on va faire un petit saut dans Daniel. Nous étudierons trois visions que Daniel a reçues. Et une des visions qu'il va recevoir, c'est sur une période de 70 semaines d'années, c'est-à-dire 490 ans, qu'est-ce qu'il va se passer? Et je vous expliquerai en détail les différentes périodes sur ces 70 semaines d'années.
Nous allons vous expliquer en détail les différentes périodes sur ces 70 semaines d'années. Nous allons vous expliquer en détail les différentes
périodes. Et en fait, il a cette révélation absolument extraordinaire.
Daniel,
nous le verrons, c'était un peu, c'était le prophète de la fin des temps, en quelque sorte. Le livre de Daniel est appelé par certains théologiens l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que nous allons regrouper un certain nombre de textes. Et on verra que Daniel va nous donner l'image en général de ce qui va se passer. Et puis ce que Jésus va dire dans Matthieu 24 et 25, ça va nous donner des compléments. Et l'Apocalypse nous donnera beaucoup de détails.
Donc,
entre autres, en réunissant ces trois textes, nous aurons pas mal de détails. Et puis de temps en temps, nous irons dans certains livres à droite et à gauche de la parole de Dieu qui nous permettront d'avoir encore d'autres précisions, de mieux comprendre de manière générale ce que Dieu veut que nous connaissions à propos de la fin des temps. Parce que Dieu veut que nous ayons cette connaissance. Dans Daniel 9, on va lire à partir du verset 25, mais c'est surtout le verset 26 et 27 qui nous montre qu'il va y avoir des moments terribles. C'est Daniel qui va recevoir une prophétie, une prédiction sur ce qui va se passer dans la fin des temps. Au verset 25, l'ange lui dit, bon, prenons connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir, de reconstruire Jérusalem, on parlera de cela exactement, quand est-ce que ça s'est passé, jusqu'au prince Messie. Le prince Messie, maintenant, nous savons que c'est Jésus. Il y a 7 semaines et 62 semaines. On étudiera tout ça, vous inquiétez pas. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. C'est Jésus qui meurt à la croix, il est retranché du vivant. De la terre. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est résolu que des dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, on verra que c'est une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On expliquera à propos de l'Antichrist, etc. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Tout ça, ce sont des prophéties qui vont concerner des moments très difficiles que Daniel a prophétisé sur la terre. Je Je vous rappelle que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec ces sept années qu'on appellera la que la Bible appelle la tribulation. Il peut y avoir des tremblements de terre aujourd'hui, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des famines, il peut y avoir toutes sortes de catastrophes. Ça n'a rien à voir avec ce que ces gens-là vont vivre pendant 7 ans sur la terre. Nous verrons que pendant ces 7 ans, c'est Dieu qui va envoyer ces jugements sur la terre. Mais Dieu soit béni, l'église aura été enlevée avant ce qu'Israël ne voyait pas. Alors, on verra d'autres références dans Zacharie, entre autres le chapitre 12 à 14, où on verra que Israël va être complètement coincé, va se retrouver dans un moment extrêmement difficile où ils n'auront qu'une solution: la destruction ou crier à Dieu. Et c'est là où ils vont crier à Dieu à la fin de ces 7 ans de tribulation. On verra aussi Joël, Ésaïe et Ézéchiel nous donnent aussi quelques prophéties à propos de la tribulation. Et là-dedans, donc, on verra qu'il y a une bataille finale que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Et les Juifs de l'Ancien Testament savaient donc qu'ils allaient avoir énormément de difficultés, que toutes les nations du monde allaient se liguer contre eux dans cette période difficile, et que le Messie allait venir les délivrer. Donc venir les délivrer. Et nous verrons que cela fait partie du deuxième retour de
Christ.
Alors, le règne de Jésus aussi, le règne du Messie donc à Jérusalem, et le millénium va être aussi révélé, donc un règne de 1000 ans du Messie à Jérusalem. C'est aussi, comme nous le verrons dans Ézéchiel, une révélation de l'Ancien Testament. Donc on va toucher certains sujets qu'on touche rarement ici à l'église, sur certains prophètes. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous suiviez très près, parce que si vous loupez des séances, vous allez vous retrouver rapidement perdu. Alors, donc Israël voyait tout ça, mais Jésus vient, et Jésus vient d'abord pour Israël. La Bible nous montre que pendant les 3 ans et demi, Jésus va aller de ville en ville, de village en village. Il va prêcher, il va enseigner, il va guérir, il va délivrer les démoniaques, il va faire des miracles de provision, il va encourager ce peuple, des grandes foules vont le suivre, etc., etc. Et il va y avoir 12 personnes qui vont être tout proches de lui. Et ces 12 personnes avaient une certaine connaissance de certains événements prophétiques. Maintenant, quels étaient-ils exactement? C'est difficile à le savoir. Mais ils savaient que le Messie viendrait établir son règne éternel. Vous vous rappelez, une fois, il y a la mère de Jacques et Jean qui viennent voir Jésus dans les évangiles, et elle commence à dire: j'ai une requête, Seigneur. Voilà mes deux fils, je voudrais que tu leur donnes une grande place dans le royaume. Et Jésus n'a pas pu leur répondre directement. Ensuite, les disciples vont poser des questions. Regardons par exemple dans Acte 1. Parce que plusieurs fois ça va remuer. Acte 1. Regardons ensemble. Donc Jésus apparaît à ses disciples. Il dit au verset 3: c'est à eux qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur parut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommanda de ne pas de s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux donc réunis demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Lis le verset 6, s'il te plaît.
gatandatu mu kirundi ngo nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli.
Donc le Seigneur leur parlait du royaume de Dieu.
Umwami Yesu ariko arababwira ibintu by'ubwami bw'Imana.
Jésus était sur la croix.
Yesu yari yagiye ku musaraba.
Pendant trois jours, ils ont quasiment pas dormi, ayant eu peur d'être pris par les autorités romaines et juives.
Mu minsi itatu novuga baryamye nabi canke ntibaryamye na gato kubera bafite ubwoba yuko abaroma baza kubafata.
Jésus ressuscite glorieusement.
Yesu ngo yarazutse mu buryo bw'icyubahiro.
Au début, ils n'arrivent pas à le croire.
Ubwa mbere ntibabyizera ko yaba yazutse.
Au bout d'un moment, ils le croient, ils naissent de nouveau.
Ariko hagira abantu baravyizera baravuka ubwa kabiri.
Et le Seigneur leur apparaît un certain nombre de fois.
Umwami aca atangura kuzarabiyereka inshuro zitari nkenya.
Pendant 40 jours, nous dit la parole de Dieu. Rappelez-vous, Jésus ne vivait plus parmi les disciples. Il apparaissait, il disparaissait. Jésus va expliquer des choses à propos du royaume. Et puis il y a un moment, ils ont dû craquer. Ils ont entouré le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur,
est
c'est à ce moment-là? Là, tu nous promets le Saint-Esprit, d'accord. Ok. Mais Seigneur, est-ce que c'est là où tu viendras rétablir? Regardez bien, rétablir, verset 6. Rétablir le royaume pour Israël. Donc il savait très bien que d'après les prophéties de l'Ancien Testament,
Israël
deviendrait la grosse, grande nation du monde. Il le savait et il pensait que c'était le moment. Juste avant, et on va revenir après dans ce texte des Actes des Apôtres, regardons dans Jean 6, verset 15. Plusieurs fois dans l'évangile, il y a des gens qui voulaient faire quelque chose avec Jésus. Jésus veut faire le boulanger gratuit. Alors évidemment, ils étaient très intéressés par Jésus. Et une fois que Jésus va multiplier les pains, verset 14, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient: vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Oui, parce que eux, ils connaissaient une chose, les Israélites. Ils savaient que dans Deutéronome 18:15, Moïse avait promis un prophète. Il avait prophétisé sur le Messie qu'un prophète viendrait. Et attention, si quelqu'un ne l'écoute pas, ça lui posera de sérieux problèmes. Et en fait, ils attendaient toujours le prophète. Le prophète promis. Et là, ils se sont dit, bah, ça y est. Ça, c'est lui. Et regardez bien verset 15. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas accepté? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté de se faire roi par le peuple d'Israël? Et pourquoi les Israélites croyaient que c'était le temps pour eux d'avoir le roi Messie qui venait régner sur eux? Parce que c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc ils savaient. Et même encore aujourd'hui, un Israélite bien instruit dans l'Ancien Testament vous dira: mais nous, on attend le Messie, et ce Messie va venir, et on sait qu'on va devenir la nation la plus puissante du monde, qui va venir établir son règne sur la terre, que la capitale du monde sera Jérusalem. Un Israélite bien instruit vous dira ça, parce que c'est vrai et c'est prophétisé. Donc l'espérance des Israélites, c'était d'avoir un Messie qui viendrait régner et de faire de Jérusalem la capitale du monde et d'Israël la nation la plus puissante du
monde.
Donc les Israélites, dont certains aimaient Jésus quand même, ils se sont dit, ça y est, c'est bon, c'est le temps. Les Romains nous cassent les pieds, c'est l'armée d'occupation. On est sous un joug. Et Dieu n'a jamais voulu qu'Israël soit sous un joug. C'était une punition. C'était un châtiment qu'il subissait. Et ils se sont dit, ça y est, lui, il va nous délivrer des Romains.
Il va nous délivrer.
Messie, ça veut dire
oin.
Celui qui est oin brise tout. Brise les
joues.
Donc il va nous libérer du joug des Romains. À tel point que Jésus va entrer dans Matthieu 21 qu'on étudiera ensemble. Il va entrer à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? La foule l'acclame. Ils mettent,
hein,
c'est de ça qu'on a tiré, je crois, le dimanche des rameaux, si mes souvenirs sont bons. Jésus vient sur un anon, le petit d'une ânesse. Et tout le monde crie Hosanna, Hosanna au fils de David. Et on verra cette prophétie du psaume 118. Et les gens voulaient le faire roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On verra ce que ça voulait dire. Les gens voulaient que Jésus règne, le Messie règne. Alors après toute cette excitation, le Messie va être mis à mort. Immense déception pour les Juifs. Pourtant, ils en avaient les prophéties. Mais ils n'avaient pas bien compris. Et une fois que Jésus est ressuscité, que tout le monde est un peu calmé, que les ennemis de Jésus se sont calmés parce qu'ils croient s'être débarrassés du gêneur. Alors les disciples parlent avec le Seigneur qui leur apparaît. Revenons à Actes.
Et
dans les Actes, il pose la question. Chapitre 1, verset 6 qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Donc maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi à plusieurs reprises, on parle d'un roi. Rappelez-vous d'une chose. Quand Jésus est né, il y a quelqu'un qui a voulu l'éliminer. Parce que dans les prophéties, il y avait un roi qui arrivait. Etc. Et là, on voit plusieurs fois, on veut le faire roi. Pourquoi? Parce que le Messie devait régner. C'était très clair dans les prophéties de ceux qui avaient un minimum d'instruction au niveau de l'Ancien Testament. Et Jésus va leur répondre quelque chose à ses disciples qui sont nés de nouveau. Il leur répondit, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc il leur dit, les disciples posent la question, quand est-ce, c'est à ce moment-là que tu vas venir rétablir le royaume? On va être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils avaient vraiment compris ce que ça voulait dire? Je sais pas, ils s'imaginaient qu'ils allaient être couverts de la gloire de Dieu, qu'ils allaient pouvoir régner. Jésus leur avait dit qu'ils allaient régner avec lui. Donc ils se sont dit, on va être des super héros, on va régner à côté du Messie tel quel.
Mais
ça serait bien d'avoir des ministres loin de Dieu.
Un
jour, il y aura un vrai gouvernement divin. Alléluia. Avec des gens qui seront vraiment loin de Dieu et qui gouverneront parfaitement un seul peuple, une seule nation sous celui qui a créé toutes choses.
Amen.
C'est notre espérance, frères et sœurs. Je vous montrerai une chose prophétique. Ce que vous voyez aujourd'hui, la façon dont les nations sont faites, un jour Dieu arrêtera tout ça. C'est le jour où Jésus viendra pour la deuxième fois. On étudiera ça. Il y a des choses qui vont beaucoup changer sur cette terre. Mais chaque homme est dans son petit truc, dans son petit jour, dans sa petite seconde. C'est pour ça que voir les événements prophétiques nous montre quelque chose d'important.
Donc,
ils attendaient cette prophétie. Et Jésus leur dit non. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et ils ne vont apparemment plus poser de questions sur ce sujet. Ce sera la dernière. Puis l'église démarre, ils sont dans l'euphorie. Ils prêchent l'évangile. Ils viennent juste d'être baptisés du Saint-Esprit. Plein de choses se passent. Ce Jésus qu'on avait pensé éliminer commence à ressortir de partout et l'église démarre. Et là apparemment ils ne se souciaient plus de la fin des temps. Et Dieu quelques temps après,
je
dirais un peu moins de quelques dizaines d'années après, va susciter un homme qui s'appelle Paul qui va recevoir un certain nombre de révélations sur le temps qu'Israël ne voyait pas, sur la dispensation qu'Israël ne soupçonnait pas, que ce temps particulier où des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race pourraient venir au pied de la croix et invoquer le pardon du Seigneur et devenir le peuple de Dieu. Israël ne le voyait pas. Israël ne voyait pas ce temps. Dans leur prophétie, ils ne voyaient pas ce temps. Donc, quand on regarde toutes ces prophéties, qu'on regarde où les disciples étaient, ne voyaient pas encore, étaient encore aveuglés par rapport à cela, d'un seul coup, Dieu va enlever le voile quand il était temps, et au travers de la plume de Paul, va nous révéler certaines choses que Paul va recevoir. Rappelez-vous, je vous l'ai montré dans Identification. Paul a fait une expérience particulière. Il était ravi en esprit, comme Jean d'ailleurs, pour écrire l'Apocalypse. Paul a été ravi en esprit et a reçu des choses, des révélations, des révélations puissantes de la part de Dieu sur le mystère de l'Église, le mystère qui était caché de toute éternité. Et là Paul va nous aider à comprendre un certain nombre d'enseignements, de prédictions, des choses prophétiques que Dieu avait dans son cœur. Alors regardons maintenant ensemble. Ah oui, juste une dernière chose que les Juifs savaient aussi, c'est qu'il y aurait une conversion en masse, une reconnaissance en masse à la fin de la tribulation de la part des Juifs vis-à-vis du Messie. Ça c'était quelque chose qui était bien compris, et dans Zacharie 12 à 14 on verra, c'est quelque chose qui est très clair. Alors maintenant on va voir ce qui nous a été révélé des événements prophétiques qui nous ont été révélés à nous, l'église de Dieu, qu'Israël ne voit pas dans ses prophéties. Je reviendrai souvent à cela parce que c'est très important. Sinon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Quand nous allons étudier les 70 semaines d'années de Daniel, on verra très clairement que les Juifs ne comprenaient pas, n'avaient pas la révélation des temps et des moments où nous étions. Nous sommes par un. Alors, ce qui fait partie du mystère révélé, dans cette dispensation actuelle qui est la dispensation de la grâce, la dispensation de l'église. C'est d'abord bien sûr l'habitation de Dieu en esprit dans le cœur du croyant. Christ en nous, effectivement. Et en fait, ça c'est quelque chose qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Le peuple n'était pas né de nouveau. Le peuple n'avait pas cette espérance. On faisait partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament par naissance, au travers d'une famille juive. Alors, qu'en était-il des autres? Il était possible d'adhérer à la loi juive.
Donc,
par adhésion aussi, on pouvait être considéré comme du peuple juif. Dieu avait laissé une possibilité dans sa loi. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit pour chaque croyant. Avec le parler en langue. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du mystère révélé de la dispensation de l'Église. Nulle part, on voit qu'il y a ce parler en langue quelque part qui est prophétisé tel quel dans la parole de Dieu pour chaque croyant. Le langage qu'on ne comprend pas, bien sûr. Alors, une autre chose aussi qui est révélée, c'est que chaque croyant est un sacrificateur, un prêtre si vous préférez. Dans l'Ancien Testament, le peuple pouvait s'approcher de Dieu seulement au travers d'un intermédiaire qui était oint par Dieu et qui était le sacrificateur. Le peuple venait avec ses offrandes, ses animaux selon les rites de la loi. Il donnait son offrande, son animal au sacrificateur qui le prenait, qui l'égorgeait, qui le tuait d'une certaine façon. Le sang était pris, on faisait certaines choses avec le sang suivant les différents sacrifices, la façon dont on voulait s'approcher de Dieu. C'était, il faut le dire, un peu complexe, mais la porte de la grâce n'était pas ouverte. Et c'était le sacrificateur qui apportait cela devant Dieu. Tout passait par le sacrificateur. Tout ce que le peuple faisait devait passer par le sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, nous sommes un sacerdoce. Regardons ensemble 1 Pierre 2:9. C'est pour ça que n'importe qui est né de nouveau peut s'approcher de Dieu et recevoir de Dieu. Regardez ce que 1 Pierre 2:9 nous dit. Il est dit, donc Pierre nous dit, par l'inspiration du Saint-Esprit, vous par contre, vous l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi nous pouvons directement nous approcher de Dieu.
Qu'on
n'a pas besoin d'intermédiaires. Dans les religions traditionnelles, on a fait des intermédiaires. Et ce n'est pas scripturaire. Parce que chaque croyant et lui-même un sacrificateur. C'est lui-même qui, pour lui-même et pour les autres, s'approche de Dieu et a la faveur de Dieu. Parce que l'onction est dans chacun de nous. Les 9 dons du Saint-Esprit aussi pour les croyants. Dans l'Ancien Testament, il y avait 7 dons en opération. Et dans le Nouveau, il y en a 9. Mais pour tous les croyants, et en fait, c'était pas l'Israélite je dirais qu'il n'était pas prophète. Il n'exerçait pas les dons spirituels. Il y a que quelques exemples qu'on voit où il bénéficie d'une certaine onction, mais
ce
n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait vivre. Nous, dans la révélation du Nouveau Testament, il y a les neuf dons qui sont pour l'Église d'une manière générale. Alors, une autre chose qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament et que nous étudierons très prochainement, c'est l'enlèvement de l'Église. Nulle part dans l'Ancien Testament vous avez une prophétie sur l'enlèvement de l'Église. C'est normal puisque l'enlèvement de l'Église c'est réservé à l'Église et non pas aux Israélites. Les Israélites ne voyaient pas l'enlèvement de l'Église puisque les Israélites ne voyaient pas l'Église. Donc ça ne pouvait pas être prophétisé dans l'Ancien Testament. Ce qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament et ce qui est révélé dans le Nouveau, c'est la doctrine de l'Église.
C'est-à-dire
Église, corps de Christ, les cinq ministères, les églises locales, le gouvernement du royaume de Dieu d'une manière générale.
Ça,
c'était quelque chose qui était révélé dans le Nouveau Testament. Et pour terminer, quelque chose qui nous a été révélé à nous
et
qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, c'était l'aveuglement d'Israël. Regardons ensemble dans Romains chapitre 11 au verset 25, Paul va recevoir une révélation à propos de l'aveuglement d'Israël. Le Messie a été adressé à Israël en premier, mais ils l'ont rejeté. Donc la grâce s'est tourné d'Israël vers les païens. Et regardez ce que Paul va dire ici. Et il y a un mot que je veux que vous remarquiez bien dans votre Bible ici. Il dit: car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Donc là, il y a encore un mystère ici. Donc quelque chose qui était caché à l'Ancien Testament, que Dieu nous révèle ici,
et
dit: je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sage. Vous savez, il y a des gens qui méprisent Israël aujourd'hui, des chrétiens. Il y en a qui en font presque une idole, c'est le contraire. Par rapport à Israël, il y aurait beaucoup de choses à dire. Un équilibre entre les deux. Dieu nous montre qu'Israël effectivement a été châtié. Nous ne devons pas être des fanatiques en se disant: ah, le moindre truc qui se passe en Israël c'est prophétique. Non. Par contre, c'est sûr qu'Israël nous donne la température. Nous verrons que 1948 a été une date très particulière, parce qu'Israël va redevenir une nation et n'était pas une nation pendant 19 siècles. En 1966, les Israélites vont pouvoir réoccuper une partie de Jérusalem. Aucune prophétie de l'Ancien Testament ne pourrait s'accomplir sans qu'Israël ne soit une nation et sans qu'il y ait les Juifs qui soient dans Jérusalem. Et je rajouterai une chose: tant qu'il n'y aura pas un temple dans Jérusalem, parce que la Bible va nous parler d'événements prophétiques qui vont se passer dans le temple. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de temple à Jérusalem. Le temple n'a pas été reconstruit. Nous verrons qu'il a été détruit en 70 après Jésus, c'est-à-dire à peu près 40 ans après la mort de Jésus. On expliquera tout cela. Et il dit: il y a un endurcissement partiel d'Israël. Donc le mystère qui nous est aussi révélé là, c'est que Israël est endurci partiellement. Et regardez bien le petit bout de phrase après. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En ce moment, c'est le temps des païens. Le temps que les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de souche d'Israël,
qui ne sont pas juifs,
entrent dans la grâce et soient
sauvés.
C'est le temps de la grâce que Dieu nous accorde,
que
son nom soit béni, parce que si ce temps n'avait pas été accordé, si ce temps n'avait pas été accordé, on serait mal. Mais Dieu qui est riche en bonté, celui qui n'avait pas appelé un peuple est devenu son peuple. Ceux qui au départ ne le cherchaient pas l'ont trouvé.
Et
c'est nous, frères et sœurs. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob ses impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Oh. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu est clair dans sa parole. Israël va avoir un rôle prophétique très important. Mais il n'aura pas de rôle prophétique tant que nous, les païens, on ne sera pas tous entrés dans le royaume. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la grâce pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, pouvoir être sauvés et délivrer leurs péchés. Le jour où Jésus viendra chercher son église,
il
va enlever son église. Alors, l'horloge prophétique pour Israël reprendra pour 7 ans. Et c'est là où c'est paroles s'accompliront. Mais ça, c'était un mystère. Un mystère. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ce soir? Nous avons vu des choses qui sont importantes. Le mystère qui était caché pour Israël. C'est le mystère de la dispensation de l'Église, de la grâce. Le temps de la grâce. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, rappelez-vous. Le Messie venait par les Juifs. Ils le savaient, c'était prophétisé. Vous trouvez les prophéties de l'Ancien Testament. Le Messie devait souffrir et être mis à mort. Oui, ils le savaient. Le Messie devait ressusciter, ils le savaient. Puis le Messie devait entrer dans son règne. Pour eux, c'était tout de suite. Mais ils ne voyaient pas le temps où nous sommes. La dispensation de la grâce. La dispensation de l'Église. Même les disciples au début ne l'ont pas vu. Ils ne comprenaient pas début des actes. Ça a été révélé à Paul. Il a reçu ses révélations. Et il nous révèle ses mystères. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des révélations sur les temps où nous vivons que les Israélites ne connaissaient pas. Pour eux, ils étaient aveugles. Nous, nous avons toute l'image, tout ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Eux, s'ils marchent que avec l'Ancien Testament,
n'ont
qu'une image qui les concerne, eux, Israël. C'est pour ça que vous ne trouverez rien sur l'enlèvement. Vous ne trouverez rien sur l'habilitation de Dieu dans chaque croyant. Les dons spirituels pour tous. Plus de sacrificateur, si ce n'est le peuple qui est chaque, pour chacun son propre sacrificateur, etc., etc., etc. Les cinq ministères, les différentes onctions que nous connaissons aujourd'hui, etc., etc. Et bien sûr, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était l'aveuglement de leur propre peuple. Ils ne l'ont pas vu, mais ils sont en train de le vivre jusqu'à temps que les païens entrent.
que tous ceux
qui veulent du Seigneur soient sauvés.
Lorsque
Jésus viendra enlever son église, ceux qui n'auront pas voulu de
Christ,
ils seront jugés par Dieu.
Dieu
va envoyer des jugements horribles sur la terre. Et un certain nombre vont se convertir, comme nous le verrons. Donc la prochaine fois, je vous montrerai donc la différence entre le premier retour de Christ et le deuxième retour de Christ. Puis nous étudierons l'enlèvement de l'Église avec la première résurrection. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit très prochainement.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.